Chapitre 5. Sur la même piste.
Alors comme ça, Nédélec, ils t'ont dit également qu'ils l'avaient vu, ceux du Toulinguet et ceux du Grand Gouin.
Poulmic, heurtant du poing la table pour souligner son affirmation, ajouta
« Comme nous avons pu la voir nous-mêmes sur le Grand Daouet, ou le long des falaises, à des endroits qu'on en a le vertige rien que d'y penser, tout garde-côte qu'on soit, on a beau savoir qu'elle a des ailes, ça fait froid dans le dos quand on se dit que c'est peut-être une créature humaine. »
Guillaume le Gall hocha la tête, songeur.
« Une créature du démon, tu veux dire ? Depuis que nous avons aperçu les premiers son ombre sortir, en cette méchante nuit de fin novembre dernier, des profondeurs du Voroc, elle plane par tout le pays, tantôt ici et tantôt là. M'est avis que cela ne nous présage pas du fameux, et que cette damnée chauve-souris pourrait bien être le diable lui-même. Que la bonne dame du Rosmadou nous vienne en aide. Hé hé, camarades, quelle drôle d'histoire vous contez-vous là tous les deux, que vous en laissez vos verres pleins et vos pipes vides, et que vous ouvrez les yeux à vous dévorer. »
Une voix aigrelette, narquoise, s'insinuait à travers la conversation, tenue mystérieusement par les deux gardes-côtes du poste de la Pointe des Pois, attablés en face l'un de l'autre dans la salle commune de l'abri de la tempête. Et le chevalier de l'Espervier apparut sur la dernière marche de l'escalier de bois, conduisant à l'étage supérieur où se trouvait sa chambre.
« Monsieur le chevalier !»
Il s'était à demi levé pour le saluer. Il avança rapidement, leur frappa sur l'épaule, protestant.
« Là, là, ne bougez pas, les amis. Je prends place avec vous, si vous le permettez, car j'aime la société, moi. »
Et se retournant, il appela.
« Hola, madame Corentine, un verre de crème des Barbades pour porter la santé de ces braves gens et saluer la 20e journée de mon séjour ici. Ma foi, si je m'écoutais, j'y passerais le reste de mes jours. » Tant la cuisine de la patronne est bonne, tant les gens du pays me plaisent, et tant l'air de la mer me fait du bien. On respire à plein poumon, on dort fameusement et on dévore. Avec cela, pas d'hiver, ou un hiver si doux qu'on ne s'en aperçoit même pas. Ah, j'aurais du mal à me remettre à l'existence parisienne. »
Il pirouettait sur lui-même, gesticulant, avec de grands gestes des bras et une mimique endiablée, semblant vouloir étourdir tout le monde autour de lui de ses paroles et de ses mouvements, pendant que, sous l'abri demi-clos de ses lourdes paupières, ses yeux dardaient incessamment leurs flèches pénétrantes, aiguisées d'une curiosité incessante. Depuis 3 semaines qu'il habitait la maison des Troadec, passant ses journées en excursion continuelle à travers la presqu'île de Crozon et revenant le soir chargé de plantes, de cailloux, de coquillages, ramassés à droite et à gauche, de paperasses criblées de notes, il avait peu à peu fait la connaissance, et mieux, la conquête des habitants, que sa conversation, sa gaieté, une manière joviale de mettre chacun à son aise, n'avait pas tardé à gagner. Très bavard, très questionneur, et paraissant aimer à se renseigner sur tout et sur tous, il se montrait, malgré son nom, malgré son titre, sans nulle fierté, ne dédaignant pas de causer avec les plus humbles et de fraterniser avec tous. Marins, pêcheurs, douaniers, gardes-côtes, paysans, chacun le connaissait à présent. Chacun savait aussi qu'il était à la recherche d'antiquités, de vieilles pierres, de renseignements pour un ouvrage qu'il préparait, qui paraîtrait à Paris et qui ferait le plus grand bien au pays si on lui facilitait les moyens de le terminer. Oh, il ne faisait aucun mystère de ses occupations, lui, l'existence au plein jour, voilà comment il comprenait la vie. Naturellement, c'était à qui s'empresserait de le satisfaire, de l'aider, et il riait, heureux, frottant vivement ses mains sèches, quand on lui apportait quelques documents utiles, en disant « Je travaille au bonheur de la France !» Ah, il y travaillait, il s'en donnait un mal pour cette France. Si on ne lui en était pas reconnaissant, c'est que le monde serait bien ingrat. Voilà ce que pensaient les Camarétois. « Tenez, la v'là votre crème des Barbades, monsieur le chevalier, et j'en prendrai aussi un doigt pour trinquer avec vous à votre bonne santé. » Corentine apportait 2 verres et la bouteille de liqueur, la figure épanouie et joyeuse, comme si ce diable de Parisien eût eu le don de semer la joie autour de lui dès qu'il apparaissait quelque part. Dame, ils étaient loin les soupçons, les pressentiments de mauvais augure que l'arrivée inattendue du chevalier, un soir de bourrasque, avait jeté passagèrement dans l'âme et dans le cœur de la patronne de l'abri de la tempête. Chaque jour, chaque heure avait contribué à effacer jusqu'à la moindre trace de toute cette fantasmagorie que l'on pouvait attribuer à des influences atmosphériques et à des inquiétudes d'ordre tout particulier. Maintenant, il n'y avait pas dans Camaret de meilleurs amis que les Troadec et leur nouvel hôte. Jamais il n'avait approché de gentilhomme aussi simple, aussi familier, plus accommodant que ce chevalier de l'Espervier que le hasard avait amené chez eux et qui avouait ne plus pouvoir s'en aller malgré les importants travaux qui devaient le rappeler à Paris. Le fait est qu'il avait une correspondance formidable avec la capitale. Pas une semaine ne se passait sans qu'il y eût pour lui un courrier important, et sans cesse il écrivait, se rendant même souvent à Brest, pour que ses lettres subissent un moins grand retard qu'en partant par les courriers de Crozon, de Châteaulin, de Quimper. Ce travail épistolaire n'empêchait pas ses excursions quotidiennes. Il connaissait à présent toute la partie de la presqu'île avoisinant le petit port de Camaret, s'arrêtant volontiers dans les plus humbles demeures des pauvres villages, semés çà et là sur ce coin de terre ingrat et désolé. Les côtes lui étaient également familières jusque dans leurs moindres replis, et souvent il s'était fait conduire en mer par Cornélie Troadec ou par quelque autre pêcheur pour admirer du large les falaises, les rochers et les grottes. C'est ainsi que, dès le lendemain de son arrivée, après s'être perdu et avoir longuement erré à travers les Landes, il avait dû, au village de Kerloc, demander son chemin et que, par un singulier hasard, il était allé frapper à la maison habitée par Monique Kervella. Il descendait, comme d'habitude, de sa chambre au moment où les deux hommes causaient, et grâce à la finesse extraordinaire de son ouïe, il avait pu entendre ce qu'ils disaient. Masquant sous une exagération de gaieté l'âpre curiosité éveillée en lui par un mot que, durant ces 3 semaines, il avait entendu voleter à différentes reprises autour de lui, il s'exclama tout en heurtant son verre à celui de Corentine et à ceux des gardes-côtes. « Une chauve-souris ! Vous en avez une imagination, mes garçons, avec votre chauve-souris. Pour moi, je n'en ai pas rencontré une seule dans toutes les grottes que j'ai visitées, au Toulinguet, à Morgat ou à Dinan. Si vous disiez des goélands, des mouettes, des corbeaux, à la bonne heure, mais une chauve-souris, un vrai rêve que vous avez fait ce jour-là. Derrière ce rire forcé, son attention restait tapie, à l'affût, ses prunelles toujours braquées entre les plis de sa face ridée de cette exagération voulue de gaieté. « Un cauchemar, plutôt !» repartit gravement Poulmic. « Un cauchemar qui pèse sur nous, sur le pays entier !» Guillaume le Gall fit, la physionomie raisonneuse et les yeux pensifs. C'est pourtant pas possible que ce soit la Monique qui court ainsi de nuit, de jour, elle qui est affligée et quasi impotente de son corps, à ne pouvoir se traîner autour de sa maison de Kerloc. Il y a des temps qu'on ne l'a vue par les Landes. Et puis, malgré tout, elle est brave femme en grand, que chacun sait. Poulmic conclut. Pas moins vrai qu'elle est la chauve-souris. Et il accentua rauquement les syllabes cornouaillaises au vol lourd et duveteux.
C'est pas pour rien qu'on la nomme An Askel Groken.
Le chevalier de l'Espervier eut un petit sifflement bizarre entre les dents, tandis que la vrille de ses yeux tournait, enfonçant plus avant leur pointe, mordant plus profondément dans le cerveau de ses interlocuteurs, et il questionna.
Hé hé, Kerloc, avez-vous dit ? Un village qui est au fond de l'anse de Dinan, je vois ça d'ici. Il y aurait une chauve-souris par là à vous entendre.
Corentine intervint.
Oui, voyez-vous, cette chauve-souris qu'ils appellent, c'est une cousine à nous, à mon mari, une parente qui habite ce petit hameau sur la route de Crozon, une pauvre vieille femme de 73 ans aujourd'hui, à peu près folle à force de malheur, une vraie innocente, une affligée, comme nous disons chez nous. Alors, comme ça, à cause qu'elle porte toujours une mante flottante qui lui met autant dire des ailes autour du corps et qu'elle abrite sous un capuchon à oreilles ses cheveux blancs, qu'elle est en plus un peu bizarre de figure, rapport à ses yeux noirs et à son nez pointu, ils l'ont ainsi désignée, la Monique Kervella. Avec un récalcitrant hochement de tête, Poulmic ajouta, plein du mystère.
Pour ça et pour autre chose encore, vu que c'est des bêtes suspectes,
elle continua, attendrie. « Pauvre bonne femme, comme aussi elle est guérisseuse,
qu'elle sait des choses et des mots pour soulager, et qu'elle vit isolée là-bas, ils la disent sorcière. Elle n'a plus au monde que nous et son petit-fils, un officier dans l'artillerie de marine à Brest, un brave cœur qui a fait son chemin tout seul, un beau garçon, ce qui ne gâte rien, ce Jean-Marie à nous. On ne peut pourtant pas l'accuser de tous les maux, parce que des misères ont troublé son cerveau. » Le Gall reprenait. « Pour ce qui est de sa bonté et de son savoir, je serais un ingrat de ne pas le dire, attendu qu'elle a sauvé ma femme et mon petit gars que les médecins disaient perdus. Elle a des herbes et des chansons que nul ne connaît et qui enlèvent le mal comme avec la main. Il n'y en a pas un par ici qui lui ferait misère, bien qu'on ne comprenne pas toujours trop ce qu'elle marmotte. Elle n'a jamais jeté un sort sur personne, ni bête ni gens. Aussi, moi, quoique j'ai bien vu de mes yeux avec le poulmique, eh bien, je ne pense pas que ce soit cette chauve-souris-là. Elle n'a ni assez de connaissances, ni assez de jambes pour faire tant de voyages, puisqu'on l'aperçoit partout depuis quelque temps. » Nedelec ne se déclarait pas vaincu. Il s'obstina. « Possible qu'elle soit plus sorcière qu'on ne suppose, voilà tout. Elle ne bouge pas si on veut, et c'est sa forme qui va et qui vient. Qu'est-ce que tu dirais de cela, hein ?»« Je dirais que c'est des conversations dangereuses, et comme il vaut mieux ne pas en tenir par nos pays, »
grommela sourdement Guillaume. Les sourcils froncés, les narines relevées comme pour flairer, ses prunelles en arrêt, le chevalier, le menton dans ses mains, les coudes sur la table, restait immobile, dans une concentration puissante d'attention. Certainement, il y avait là un mystère qui l'attirait. Ces deux hommes étaient-ils simplement le jouet d'une illusion, d'un fantôme créé par la peur, par leur cervelle imbue de grossières superstitions, ou bien... Et il demeurait sur cette interrogation mentale, insatisfait, ne pouvant admettre la même hallucination pour tous les deux au même moment, malgré les effets étranges de la contagion morale. Et puis, ils n'avaient pas été les seuls à voir, d'autres avaient vu également. Alors, un coup rudement frappé à la porte les fit retourner, d'un même sursaut presque épeuré, dans la disposition d'esprit où ils se trouvaient. Corentine n'avait pas eu le temps de répondre que, le bâton poussé, un homme entrait, de taille si élevée que son chapeau effleurait presque le linteau. Aussi large d'épaule, aussi puissamment charpenté que Cornélie Troadec et que ses fils aînés, il était plus massif de corps, la poitrine épaisse sous un costume ajusté, les jambes plantées comme des piliers dans des bottes solides et un fort gourdin pendu au poignet droit par une lanière de cuir tressé. Sa face apoplectique, d'un rouge presque violet, s'étalait carrée avec des bajoues puissantes de gros mangeurs, une mâchoire avancée de dogue. Des yeux gris très vifs et très petits brillaient sous la double touffe de sourcils bourrus d'un blond roux. Le menton, les lèvres, les joues étaient rasées, ne conservant que de courts favoris en pattes de lapin, près des oreilles sanguines et des mèches crépues d'une chevelure du même blond roux retombaient sur un front bas. Derrière lui, sur le sol, une lourde balle de colporteur. Corentine, Nedelec et Guillaume le regardaient avec la physionomie de gens qui le voyaient pour la première fois. Mais le chevalier de l'Espervier avait fait un mouvement léger de surprise en l'apercevant et avait eu un recul instinctif, comme pour se rejeter dans l'ombre. Il n'en eut pas le temps. Le nouveau venu était entré et l'avait vu. À l'insu des Bretons, un éclair d'étonnement passa dans les yeux du nouvel arrivant. Cependant, il ne parut pas s'occuper autrement du chevalier et, mettant le chapeau à la main, « On m'a dit que je pourrais trouver à me loger ici. » « Avez-vous une chambre à me donner ?» Madame Troadec ayant répondu affirmativement, il poursuivit. « Je suis marchand de chevaux et colporteur. J'arrive des pays au nord de Brest, Saint-Renan, Lesnevin, Ploudalmézo, d'un tas d'endroits où j'ai fait pas mal d'affaires. On m'a parlé de ces régions-ci comme d'un coin où je pourrais me reposer, alors je suis venu, en attendant que je pousse plus au sud pour continuer mon commerce. J'ai besoin de calme, de tranquillité pendant quelque temps. » En entendant ces paroles, Corentine faisait mentalement un rapprochement entre le chevalier et le nouveau venu. Elle se mit à rire, disant tout haut, « C'est donc qu'on en parle beaucoup de notre pauvre petit pays, que voilà que, vous aussi, vous venez y chercher le repos et l'isolement, tout comme monsieur le chevalier de l'Espervier. » Le marchand de chevaux se retourna d'un mouvement un peu brusque vers l'hôte des trois decks et le salua d'un air surpris. « Ah, monsieur le chevalier de l'Espervier ?» Il ajouta rondement. « Moi, je me nomme Étienne, monsieur Étienne, tout court, enchanté de faire connaissance. » Poulmic et le Gall venaient de sortir pour rejoindre leur poste de la pointe des Pois, laissant ces deux pensionnaires en tête-à-tête. Maintenant qu'elle les avait sommairement présentés l'un à l'autre, la patronne regagna l'étage supérieur en annonçant gaiement. « Eh bien, monsieur Étienne, je vais vous préparer votre chambre. Vous serez juste à côté de monsieur le chevalier. » Ce dernier n'avait pas fait un mouvement depuis la présentation faite par madame Troadec. Il avait seulement incliné la tête sans ajouter un seul mot. Dès qu'elle eut disparu et qu'on entendit ses pas aller et venir dans les pièces du premier étage, le colosse, se penchant discrètement, articula d'une voix contenue. « On est seul ?» L'autre fit signe que oui en baissant ses paupières, tandis que son interlocuteur reprenait, toujours de la même intonation sourde. « Te voilà donc, chevalier, à présent ? Compliment sincère, la noblesse ne te va pas trop mal. Et antiquaire, oui, Ridolin, je prends mes vacances ici en respirant l'air pur des bords de l'océan. Mais toi-même, tu fais le commerce des chevaux ? Bravo, mon gaillard ! Le grand patron remonte sans doute ses écuries. » Étienne riposta. « Tu travailles bien à enrichir la galerie d'antiquités de monsieur le sénateur, ramasseur de cailloux de vieilles pierres. Ah, c'est probablement des projectiles que tu destines au jardin ou au carreau de monsieur le préfet. » Un rire muet mit en mouvement tous les muscles de la face simiesque et grimaçante du petit homme. « Pas mal trouvé, Ridolin. Décidément, tu te formes, et ils arriveront à faire quelque chose de toi. Je l'avais toujours pensé, car ce n'est pas l'étoffe qui te manque. Il n'y a qu'à te regarder pour s'en assurer. » Il élargissait les bras comme pour mesurer la surface de son interlocuteur, avec une gesticulation comique. Puis il continua plus sérieux. « Alors comme ça, tu voyages dans les mêmes parages que moi. Et pourrait-on, sans indiscrétion, te demander si tu as beaucoup récolté dans tes promenades ?» L'Hercule répondit. « J'ai vu de très bons chevaux aux foires de l'Esnevin et de Saint-Renan, mais je crois que c'est par ici, entre Châteaulin et Quimper, que je trouverai ces fameux doubles bidets qui sont bien les... » Le chevalier, s'approchant lestement, posa ses deux mains minces et fluettes sur les énormes avant-bras de monsieur Étienne et, lui enfonçant dans ses petites prunelles grises la pointe aiguë de ses yeux que ne masquaient plus les lourdes paupières complètement relevées, déclara. « Tes chevaux, c'est comme mes antiquités, hein ? Nous sommes seuls, tous deux. Personne ne peut nous entendre. » Pas même quelques mouches de la contre-police consulaire ou de ton doux patron du bois, le préfet de police. Quant à moi, j'ai les coudées franches et je travaille comme je l'entends pour le mien, l'ex-ministre de la police, le sénateur Fouché. Ainsi, nous pouvons y aller franchement. » Il se rapprocha encore, insinuant et net. « Veux-tu me servir ? Je te servirai également. Cela vaudra mieux que de nous contrecarrer. En fin de compte, Fouché, Dubois, Réal ou Desmarais, la police officielle du gouvernement, la police du premier consul, la police d'amateurs, la police politique, tout cela, c'est la même chose, puisque tous ce que nous voulons, c'est le triomphe du général Bonaparte, et que ce sont ses ennemis que nous poursuivons. Nous sommes sur la même piste, celle de tous ceux qui veulent le faire tomber. Ennemis, nous ne pouvons que nous nuire, faire échouer nos recherches. Amis, nous réussirons certainement, car nous nous connaissons assez pour savoir quels sont nos mérites réciproques et en tirer parti utilement. » En entendant cette tirade, Étienne Ridolin s'était épanoui. Une lueur de satisfaction s'allumait peu à peu dans l'âtre cendreux de ses petits yeux, et il s'exclama avec une certaine admiration. « Ça, c'est vrai. Toi, parfait l'Espervier, le renard le plus rusé que j'ai jamais rencontré, le roi des gamins de Paris, tu étais déjà fameux quand moi je ne faisais que commencer. Et pourtant, tu n'as que 30 ans. Je suis ton aîné de 2 pleines années. Mais tu as été à la bonne école, toi. » Lorsque Fouché était patron, Dubois ne le vaut pas, je dois le reconnaître. Tu sais, là-bas, à la boîte, on te donne toujours comme modèle. » Parfait l'Espervier se rengorgeait, flatté, se souvenant avec un certain orgueil de son passé. Né à Paris, dans le faubourg Saint-Antoine, il avait 16 ans en 1789, et dès 1793, il paraissait dans les clubs, curieux, fureteur, ne se compromettant jamais, et sentant grandir en lui un véritable tempérament de policier. Il y en a beaucoup qui naissent ainsi, chiens de chasse, comme d'autres naissent gibier. quand il avait vu Fouché prendre la préfecture de police, il avait trouvé en lui son idéal et avait su se faire apprécier dans quelques petites affaires. Celui-ci, connaisseur, avait compris tout ce qu'il pouvait tirer de cette sorte de furet parisien, au museau pointu, aux crocs blancs et durs, à la langue lapeuse de sang frais, ne devant jamais hésiter à saigner les lapins ni même les bêtes sauvages, à la poursuite desquelles on le lancerait. Son flair pour dépister les conspirateurs était en outre merveilleux. Aussi, lorsqu'il avait dû quitter le ministère de la police, Fouché avait-il proposé à Parfait l'Espervier de le quitter également et de rester son émissaire en s'attachant à sa fortune. Confiant dans l'étoile de son ancien chef, le Parisien l'avait suivi et travaillait maintenant spécialement pour lui, surveillant pour son compte, s'occupant à le faire rentrer en grâce auprès de Bonaparte, en découvrant les conspirations que les autres ne soupçonnaient même pas, en se montrant plus habile que les policiers du nouveau préfet du Bois, du chef de la police secrète Desmarets ou de celui de la haute politique, le conseiller d'État Comte Réal. Étienne Ridolin et lui s'étaient connus autrefois et ne s'étaient jamais retrouvés depuis. Mais le colosse avait conservé un souvenir enthousiaste de ce gringalet si maigre, souple comme un saltimbanque, habile à se grimer au point de se rendre méconnaissable, même pour ses confrères les plus expérimentés, apparaissant s'il était nécessaire, tantôt vieux, cassé, chevrotant, tantôt trapu, corpulent, tantôt mince, élégant, coquet, presque gentilhomme, de manière à pouvoir pénétrer dans tous les milieux, se glisser partout et réalisant ainsi l'idéal de l'agent de la police secrète. En ce moment, au fond de la Bretagne, il jouait les seigneurs. Il répondit, insinuant et désireux d'enrôler son ancien camarade. « On fait ce qu'on peut, mais si j'ai peut-être plus de ruse ou de malice, toi, Ridolin, tu n'as pas ton pareil pour la force. » C'est une justice à te rendre, et nous sommes actuellement dans un pays où il est nécessaire de joindre les deux pour réussir. En outre, tu es un buveur redoutable, le seul capable de tenir tête aux ivrognes et de leur arracher leurs secrets s'ils en ont. Tu vois qu'il n'y a que toi qui puisses me compléter. » Ridolin tendit sa large poigne dans laquelle vint s'enfermer la main délicate et menue de l'Espervier. « Top là, c'est entendu. Je suis ton homme comme tu seras le mien. » Puis, s'attablant en face l'un de l'autre, ils commencèrent à se rendre mutuellement et réciproquement compte de ce qu'ils avaient fait jusqu'à ce jour et de ce qu'ils pensaient faire. « Si je suis ici, fit l'agent de Fouché, qui crut devoir faire le premier ses confidences pour mieux mettre à l'aise son futur associé, c'est que j'ai reçu d'un camarade à moi, fixé à Londres, ce mot énigmatique « surveiller Bretagne », impossible de savoir et de dire rien de plus. Je suis parti là-dessus, m'en remettant à ma chance, ne sachant pas même de quelle partie de la Bretagne il pouvait être question, mais raisonnant d'après mes petites données particulières, et plus encore d'après ce que j'aurais fait moi-même si j'avais voulu conspirer, je suis arrivé, de déduction en déduction, à me fabriquer une opinion presque conspiration. Étienne ouvrit des yeux admiratifs. Fameuse idée tout de même, je n'y aurais jamais songé. L'Espervier poursuivit toute sa face s'amincissant en un museau d'une ruse incroyable. En Normandie, près de Dieppe, il y a une certaine falaise de Biville dont on parlera avant peu, car je sais que des yeux de ma connaissance y sont ouverts jour et nuit. Cadoudal et ses amis s'en apercevront quelque jour. Je n'avais rien à faire par là, mais je n'ai pas oublié que Brest a toujours tenté ce diable de Georges, et je me suis demandé si la falaise normande ne pourrait pas avoir pour contrepartie et complément quelque mystérieuse falaise bretonne. Il est vrai d'ajouter que, jusqu'à présent, après avoir visité tous les points de la côte, je n'ai rien trouvé de suspect. On fait de la contrebande et ferme, comme partout du reste. Mais ça ne me regarde pas. Je ne travaille pas pour le ministre des Finances. Moi, ma partie, ce sont les conspirations. Cependant, je ne sais pas pourquoi, sans avoir le plus léger indice, je flaire quelque chose. Et toi ? Ridolin secoua ses lourdes épaules. Moi, rien du tout. Je cours les côtes depuis le Cotentin, tantôt comme colporteur, tantôt comme marchand de chevaux, sans pouvoir mettre la main sur le moindre conspirateur. C'est à en fabriquer ma parole pour ne pas rentrer à Paris bredouille. À Morlaix, le pays du général Moreau,
de ce mécontent qui jalouse et boude Bonaparte, j'espérais me rattraper. Rien. C'est seulement à Brest que j'ai pu faire parler de lui. Mais j'ai trouvé de ses anciens camarades d'enfance, des admirateurs, quelques anciens soldats ayant servi sous ses ordres, pas un complice. Il y avait cependant, à une table d'hôtes, un partisan singulièrement ardent de la Révolution, un officier d'artillerie de marine, un certain Yanou, natif de Camaret, encore un enfant, rien de sérieux. C'est pourtant ce nom de Camaret qui m'a amené ici, par curiosité, et je ne comptais guère t'y retrouver.
« Madoué, vous v'là comme de vieux amis, Aster !» s'exclama Corentine qui descendait l'escalier. L'Espervier, se souvenant du nom du petit-fils de Monique Kervella, de la chauve-souris, venait de s'écrier
« Yanou ? Tiens, tiens, tiens !»
Il reprit tourné vers la patronne, éteignant l'éclair soupçonneux qui avait traversé de son zigzag ses prunelles.
« Mais oui, Madame Troidec, figurez-vous que Monsieur Étienne est de Paris, lui aussi. Alors vous comprenez, un compatriote, on est heureux de se retrouver. »
Ridolin allait continuer la conversation. L'Espervier lui serra impérativement le bras, ordonnant « Silence, plus un mot de ce Yanou ici, entends-tu ?» Et Corentine s'épanouissait de les voir camarades. « Ah, monsieur le chevalier, il n'y a pas moins fier que vous, on peut le dire !»